Matthieu 13, 24 jusqu'à 30. Et avant de commencer, on va débuter avec un mot de prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le privilège que j'ai de partager un enseignement tiré de ta parole. Seigneur, merci d'être avec nous. Je te prie de nous donner les lumières spirituelles pour être capable de lire, de comprendre le texte que tu nous enseignes. Sois avec moi et édifie ton Église ce matin. Amen. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Ça aurait été simple de juste dire les choses telles qu'elles sont en partant. Pourquoi est-ce que Jésus parle en parabole? Moi, j'ai trois raisons à vous proposer. C'est pas des raisons qui sont exhaustives. Là, j'ai pas passé beaucoup de temps à chercher sur le pourquoi. Il y a plusieurs raisons à ça, et ça pourrait être un enseignement juste sur ça. Mais trois raisons principales que je vous nomme. Premièrement, c'est pour accomplir une prophétie. Jésus, en venant sur la terre, était quelqu'un qui avait été annoncé longtemps avant dans l'Ancien Testament. Et il est venu sur la terre, il a parlé en parabole, comme il avait été dit qu'il parlerait en parabole dans les psaumes. Par exemple, psaume 78. Mais aussi pour distinguer les vrais intéressés des faux intéressés. Et pour manifester, finalement, l'aveuglement du cœur humain face aux vérités de Dieu. Autrement dit, la manière que Jésus fonctionnait, c'est qu'il communiquait des histoires générales qui étaient intéressantes, qui touchaient son public, qui touchaient les gens autour de lui dans leur contexte, comme on va le voir. Et à travers ces paraboles-là, certaines vérités étaient communiquées. Certaines vérités qui étaient faciles à comprendre, mais pas tout à fait pour être capable de comprendre tout ce que Jésus voulait dire. Ce qui fait que Jésus communiquait ça. Et les personnes qui étaient réellement intéressées à en apprendre plus sur Jésus, on voit que dans les paraboles, ces gens-là allaient voir Jésus, lui demandaient « qu'est-ce que ça veut dire? » Et Jésus leur expliquait. Il était très ouvert à expliquer ça en détail. Et ce que ça faisait, en fait, c'est que les gens qui étaient réellement intéressés à apprendre plus sur les paraboles allaient voir Jésus à part, pas face aux foules, mais à part. Ça donnait lieu à un moment où Jésus pouvait avoir des entretiens plus privés, plus personnels avec ces personnes-là. C'est à travers ces entretiens-là qu'il pouvait finalement aborder les vraies questions avec ces personnes-là sur leur destinée éternelle à eux. Mais ça permettait aussi de distinguer ceux qui n'étaient pas réellement intéressés à ce que Jésus disait. Ce qui fait que si des gens, par exemple, étaient intéressés à avoir du pain lors des multiplications ou à être impressionnés en voyant des miracles, parce que beaucoup des gens qui suivaient Jésus à cette époque-là, c'était leur motif d'être très impressionnés par Jésus qui guérissait des malades, par exemple. Mais à ce moment-là, ces gens-là entendaient la parabole et plutôt que d'essayer de creuser pour aller chercher qu'est-ce que Jésus voulait réellement dire, plutôt que d'être intéressés à qui était Jésus et le message qu'il communiquait, c'était assez pour les décourager, pour leur dire ben, « j'irai pas creuser plus loin, c'est pas ce genre de choses-là qui m'intéressait. » Mais voyez-vous, ça permettait de distinguer ceux qui sont réellement intéressés de ceux qui ne sont pas intéressés à Jésus. Et de ce fait-là, puisque Jésus prononçait des paroles de vérité, qu'il disait lui-même la vérité avec un V majuscule, là, et que les gens qui n'étaient pas intéressés à lui s'en détournaient en entendant la vérité, c'est à ce moment-là que leur condition méchante, leur condition pécheresse, était révélée aussi aux yeux de tous. Ces personnes-là se déclaraient eux-mêmes comme n'étant pas intéressées à connaître celui qui se disait être Dieu. Et c'est comme ça que ces gens-là, finalement, se condamnaient eux-mêmes. Vous vous rappelez tantôt quand Benoît a dit quelque chose du style les gens qui, finalement, ne seront pas en présence de Jésus dans la vie éternelle, ce sont des gens qui vont s'être condamnés eux-mêmes. Ce sont des gens, finalement, qui n'auront pas accepté l'Évangile, qui est facile à accepter, là, que Jésus proposait. Mais Jésus fait exactement la même chose. Ces gens-là se condamnent eux-mêmes par le fait qu'ils ne sont pas intéressés à aller voir Dieu, qu'ils se présentent dans leur contexte devant eux, qui est plus accessible qu'il ne l'a jamais été, finalement. Et c'est donc un peu avec les mêmes motifs pour communiquer des vérités spirituelles et pour distinguer ceux qui sont réellement intéressés de ceux qui ne le sont pas que Jésus va communiquer la parabole qu'on va lire dans Matthieu 13, 24 jusqu'à 30, que je vais lire. Il leur proposa une parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. » Ce qui fait que vous voyez sur l'image PowerPoint ici, non seulement en bleu, il y a beaucoup de termes clés qui reviennent, qui sont des termes que Jésus prononce dans la parabole. Mais là, on a beaucoup de chance. Sur cette parabole-là, qui n'est pas le cas de toutes les paraboles, Jésus explique ce que veut dire chacun des termes. Commentaire de Jésus sur l'évangile de Matthieu. Qui l'achèterait? Si ça sortait demain matin, qui c'est qui achèterait? Moi, je l'achèterais, ça, c'est sûr. T'sais. Commentaire de Jésus sur l'évangile de Matthieu. C'est sûr, je le prendrais. Et on a un peu, donc, les commentaires de Jésus sur la parabole que lui-même a prononcée au verset 36 jusqu'à 43 qu'on va lire. Donc, une section juste à côté. Verset 36 à 43. Et remarquez dans cette section-là, c'est une de ces paraboles-là où, au moment où Jésus laisse les foules, des gens viennent le voir, et là, ce sont les disciples qui viennent le voir, et lui disent, « Pourrais-tu nous expliquer ce que veut dire les paraboles? » La parabole de l'ivraie ici. Et là, Jésus va leur expliquer très librement qu'est-ce que ça veut dire. « Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. » La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc, au verset 36 jusqu'à 39, ce que Jésus fait, c'est qu'il ouvre un genre de glossaire, si on veut. Il donne la définition de qui est qui, finalement, dans la parabole. Ce qui est affiché ici, ce qui va être là, donc, tout au long de l'enseignement pour que vous y retrouviez. Verset 40 jusqu'à 43. « Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. » Par cette petite phrase-là, essentiellement, ce que Jésus dit, c'est que celui qui est capable de comprendre ce que je dis porte une attention particulière et creuse pour être capable de réellement saisir tout ce que je dis, que celui qui a des oreilles entende. Ce qui fait que si je reviens dans notre parabole et si je la résume, on a donc un maître qui possède un champ, qui sème du blé. Et là, pendant que tout le monde dort, son ennemi vient, sème de l'ivraie, et on va voir qu'est-ce que de l'ivraie. Donc, sème de l'ivraie et s'en va. Au bout d'un moment, les deux plantes poussent et sont distinguées. Les serviteurs du maître viennent voir le maître et lui disent, « Il y a de l'ivraie dans ton champ, veux-tu qu'on l'arrache? » À quoi il va répondre, « Non, laissez croître les deux végétaux jusqu'à la moisson. » Et à la moisson, des moissonneurs vont se charger de séparer l'un de l'autre. Et donc, on est introduit au moment où Jésus commence à prononcer la parabole. Il leur propose une parabole, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. » Dès le départ, on est introduit au fait que Jésus avait un motif clair en disant les paraboles. Il ne disait pas simplement des histoires pour raconter des histoires, pour divertir. Il y avait des objectifs clairs à travers la parabole. Et l'objectif de cette parabole-là, il est écrit dans le verset 24, il est assez clair même. « Le royaume des cieux est semblable à... » Essentiellement, ce que Jésus va donc chercher à décrire, c'est à quoi va ressembler le royaume des cieux. Essentiellement, la question qu'il pose à ses interlocuteurs, ce qui les invite à se poser comme question, c'est la question suivante. Comment répondras-tu à l'enseignement de Jésus sur le monde à venir? seras-tu suffisamment ouvert à l'enseignement de Jésus pour comprendre que celui qui décrit le royaume des cieux est aussi celui qui va l'initier et est aussi celui qui est capable de t'y amener? Et on a donc un homme qui est appelé donc le Fils de l'homme. Et dans Daniel, chapitre 7, verset 13 à 15, on a finalement Dieu qui est décrit lui-même comme le Fils de l'homme, qui viendrait sur la terre pour dominer la terre, pour en être finalement le roi. Et là, on a Jésus qui, dans les évangiles, se dit être le Fils de l'homme. Donc, c'est pas très compliqué d'aligner les données et de comprendre que Jésus est donc ce Dieu-là, Dieu qui est venu sur terre, dans le but d'en être le roi éventuellement. Et là, la façon dont il va décider d'en être le roi, autrement dit, la façon dont il a décidé d'employer pour devenir le roi, c'est donc de vaincre la mort par son propre sacrifice pour nous donner la vie, pour nous donner accès à ce royaume-là, qui n'est possible que par un changement de cœur. Donc cet homme-là sème de la bonne semence. Et la bonne semence, Jésus nous dit que ce sont les fils du royaume. Il fait bien définir que ce sont dans cette parabole-là les fils du royaume, parce que dans d'autres paraboles, c'est complètement autre chose. Ça peut être des fois la parole de Dieu elle-même, des fois c'est autre chose aussi. Et finalement, il sème cette parole-là dans son champ. Et le chien, il le décrit comme étant le monde. Certains ont tendance à lire cette parabole-là et dire « Ah, 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 ça c'est l'Église, les fils du royaume dans l'Église, mais aussi des faux chrétiens dans l'Église. » Bon, c'est pas ça du tout. Essentiellement, Jésus définit ces termes, il dit « Bon, le champ dans lequel est semé le blé, c'est le monde. » Donc, partout dans le monde, finalement, Jésus a décidé de mettre des fils du royaume, certains au Québec, certains au Canada, certains en France, comme la famille Grette qui est venue présenter la semaine passée, et certains en Afrique du Sud, comme Marie-Ève et son conjoint. Tous des personnes qui sont finalement appelées à agir comme des fils du royaume, chacun dans leur emplacement qui est dans le monde. Et là, au verset 25, le tout va bien, mais au verset 25, on est introduit à quelqu'un qui va gâcher le travail. Un ennemi vient et sème de l'ivraie dans son champ et s'en va. On est introduit finalement à l'ennemi qui dit être le diable ou Satan lui-même. Et ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il vient semer de l'ivraie. Qu'est-ce que c'est l'ivraie? Essentiellement, c'est une semence qui ressemble beaucoup à du blé au début de sa pousse. Ce qui fait qu'au début de sa pousse, il est impossible de distinguer le blé de l'ivraie. Assez que dans beaucoup de traditions juives, certains disaient que, par exemple, l'ivraie, c'était en fait du blé qui avait mal poussé. À ce point semblable, c'est presque identique en début de pousse. Et le plus ça grandit, moins c'est similaire, plus ça grandit, plus c'est distinctif finalement. Puis c'est pour ça que les serviteurs, à un certain moment, sont capables de distinguer qu'il y a de l'ivraie, mais ne l'ont pas vu avant, c'est qu'ils sont pas capables de distinguer ça. Saviez-vous qu'il y avait une loi dans l'Empire romain, au 1er siècle, qui disait que c'était illégal pour quelqu'un de semer de l'ivraie dans le champ de blé de son voisin. Parce que c'était une entreprise d'avoir un champ. T'étais un fermier, tu avais un champ, tu avais des récoltes avec lesquelles tu faisais des produits que tu allais vendre après ça. Mais là, ton voisin faisait strictement la même chose. Ce qui fait que ça pouvait être tentant, quelquefois, d'aller échapper de la grenaille mauvaise dans son champ pour finalement saboter sa récolte. Parce que l'ivraie, quand il pousse et qu'il est mélangé au blé, c'est aussi toxique. Ça a un goût amer, ça peut avoir des conséquences sur l'organisme qui sont réellement néfastes et c'est finalement quelque chose qui vient gâcher la récolte complètement. Si tu as de l'ivraie dans ton champ, c'est jamais une bonne nouvelle. Et c'est donc cet ennemi-là, le Satan, qui est décrit comme celui qui va essayer d'aller gâcher ce que le maître a initié dans son monde, soit mettre des fils de Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des fils du malin. Il va finalement mettre en place des gens qui sont opposés à Dieu et qui, par leur comportement, se disent, soit verbalement ou en fait par leur comportement, être opposés à Dieu. Et là, Satan, tout au long de cette parabole-là, on n'en entend pas parler souvent, mais les petites illustrations qu'on a de lui dans la parabole nous le décrivent comme quelqu'un qui non seulement s'oppose à Dieu, mais qui est décrit comme quelqu'un de très malveillant, qui gâche le bon travail du maître finalement. Quelqu'un qui fait pas les choses par accident, mais en fait, il rentre par infraction dans le terrain de quelqu'un d'autre, volontairement pour en gâcher la récolte. Et tout au long des récits bibliques, c'est exactement comme ça qu'il est portrayé, comme quelqu'un qui s'oppose à Dieu, quelqu'un dont le seul motif est de gâcher ce que Dieu fait. Mais quelqu'un dont le seul motif est aussi de gâcher ce que tu fais, ce que tu essaies d'entreprendre, ce que tu essaies de faire de ta vie, en te détournant de la bonne manière de faire les choses, en essayant de t'orienter vers une mauvaise manière de faire les choses. C'est quelqu'un qui gâche les choses, quelqu'un qui essaie de gâcher tes relations, quelqu'un qui essaie de gâcher ta situation financière, quelqu'un qui essaie de gâcher ta situation familiale, ton mariage, ton travail, en essayant de détourner sans arrêt tout le monde de la bonne manière de faire les choses. Et vrai ou faux aussi, la parabole s'arrêtait là. Jésus ferme les livres et voilà, il s'en va. Si la parabole s'arrêtait là, l'histoire s'arrête là et on a l'impression que le mal gagne sur le bien. L'ennemi gagne sur Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux, ce genre de situation-là nous arrive régulièrement. Soit vous entendez parler de quelqu'un qui a vécu cette injustice-là ou finalement le mal a fini par gagner sur le bien. On en entend tous parler. Une de ces situations-là, à grande échelle, je parle à l'échelle de la planète Terre au complet, est arrivée ce printemps, en fait. Probablement qu'il y en a qui ont entendu parler des conflits en Europe de l'Est. Essentiellement, la Russie a perdu un territoire qu'on appelle la Crimée. Et là, il se présente une situation de risque, une situation politique fragile en Ukraine. La Russie décide de profiter de cette situation-là pour, par des manipulations politiques qui sont illégales, en fait, là, pour reprendre la Crimée et, en fait, finalement, la voler. Et là, aujourd'hui, la Crimée, c'est un territoire volé qui appartient à la Russie, qui est très lucratif. Là, il y a des ports. Là, c'est un endroit où l'Ukraine aurait eu besoin, finalement, pour continuer à avoir une situation économique qui s'améliore. Et là, la Russie la vole devant tous les autres pays, finalement, là. Et là, les autres pays qui sont aux alentours ont aucun pouvoir pour punir la Russie et faire en sorte que les choses se replacent. Puis là, vrai ou faux, aujourd'hui, on est obligé de vivre avec le fait que tu as un immense pays qui s'est imposé, qui a volé un territoire super lucratif, puis on peut rien faire contre ça. C'est arrivé dans tout le monde, personne n'a rien fait, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. Vrai ou faux, dans cette situation-là, le mal a gagné sur le bien. Oui, c'est vrai, oui. Puis c'est une des conséquences de vivre sur Terre, dans un monde qui est tombé. Parfois, le mal gagne sur le bien, pour un temps. Parce que ce que Jésus fait, c'est qu'il n'arrête pas la parabole ici. Ce qu'il fait, c'est qu'il continue la parabole. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous montrer que, contrairement à ce qu'on peut apprendre, c'est-à-dire que les circonstances du monde peuvent faire en sorte que des fois l'ennemi gagne par-dessus Dieu, temporairement dans le monde ici, ultimement, la parabole nous présente un espoir que Jésus peut donner, un espoir que lui seul peut donner à notre vie et au monde dans lequel on vit présentement. Un espoir qui nous permet de croire que les situations comme ce qui s'est vécu en Russie versus la Crimée ne se présenteront pas éternellement, ils ne continueront pas comme ça. Plus que ça encore, un jour il va y avoir justice pour des situations comme ça. Il va y avoir aussi justice qui va être faite pour les situations qui t'ont déchiré, que tu as subi, puis que tu as été obligé d'endurer, puis qui n'était même pas de ta faute. C'est ce que Jésus va nous présenter dans le reste de la parabole. Moi, je vais lire les versets 26 à 28, qui va être la prochaine section sur laquelle on va se questionner. « Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? » D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Et là donc, le blé pousse, l'ivraie pousse aussi. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt, après un certain temps, les deux, on peut les distinguer, les deux plantes ne sont plus identiques. À la fin de la pousse, et plus ça va vers la moisson, ces deux plantes-là peuvent être distinguées. Et donc, les serviteurs voient qu'il y a de l'ivraie dans le champ. Il semble y en avoir déjà une certaine quantité parce que D'avoir certaines mauvaises herbes dans un champ de blé, c'est assez commun. Là. C'est rare qu'il y ait juste du blé tout le long et qu'il n'y a rien d'autre. Mais imaginez-vous la quantité de d'ivraie qu'il devait y avoir, la quantité de mauvaises herbes qu'il devait y avoir dans son champ pour que les serviteurs, tout alertés, aillent voir le maître et l'adressent sur le sujet. Et il lui propose quoi? Avez-vous remarqué qu'est-ce qu'il lui propose? Juste qu'on aille l'arracher. Un champ, c'est grand. Vrai? C'est plusieurs acres. C'est immense. Faut-tu que la situation soit rendue assez critique pour que les serviteurs proposent au maître d'arracher chacune des mauvaises herbes de ce champ-là, une à une? C'est un des travaux en agriculture qui est le plus pénible à l'échelle d'un champ. Et là, ce que va faire le maître, c'est qu'il va dire « Non, non, ne faites pas ça. Laissez pousser l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Donc, le blé porte du fruit, l'ivraie en porte aussi. Et les deux, finalement, commencent à être distinctifs. Il faut remarquer que, sur le PowerPoint que tu sais, les serviteurs, en fait, dans la parabole qui est expliquée par Jésus au verset 36 jusqu'à 43, les serviteurs ne sont pas identifiés par Jésus. Ils n'en donnent pas de qualificatif. Et bon, il y en a qui vont dire, non, ce sont juste des accessoires, dans le fond, ils n'ont pas réellement de titre, ils n'ont pas réellement d'identité dans la parabole, ce sont juste un objet qui fait en sorte que la parabole est rendue cohérente, c'est rien de plus. Puis c'est une interprétation qui est valide et tout, mais il y a une autre interprétation qui dit, ben en fait, les esclaves, par leur comportement, par leur titre, par le rapport qu'ils ont face au maître, on a tendance à croire que ce que Jésus pointe, c'est que ce sont les disciples aussi, pour les raisons que je vais vous expliquer, là, pour rendre tout cohérent, parce que l'interprétation que j'ai décidé de prendre, c'est que les serviteurs du maître, ce sont les disciples. Ce sont eux qui écoutent, entre autres, la parabole, et après vont se l'avoir expliqué. Vous remarquerez que, là, on a, nous, dans nos versions, les serviteurs du maître. Est-ce qu'il y en a qui ont esclaves du maître? Il y en a-t-il qui ont ça? Esclaves du maître? Il n'y en a pas. Parce que les versions, normalement, en français d'aujourd'hui, vont vers serviteur pour, bon, décrire un mot qui est un peu plus moderne, sans faire faute au texte. Mais le mot original qui est décrit, c'est esclave, doulos, avec ses variantes. Et ce qu'on voit, c'est que non seulement dans l'Évangile de Matthieu, en fait, plusieurs passages nous montrent que les esclaves, ceux qui revêtissent ce titre-là, sont toujours comparés aux disciples de Jésus, d'une manière ou d'une autre. Matthieu 20, 27, « Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Matthieu 21, la parabole du vigneron, qu'est-ce qu'on a? On a deux types d'esclaves. Et on a finalement une première batch d'esclaves qui vient entretenir la vigne, puis fait une mauvaise job finalement. Et finalement, il y a une autre batch d'esclaves qui est envoyée pour faire une meilleure job. Matthieu 22, la parabole des noces, où les esclaves sont invités à proclamer à tous qu'il y a une noce et à amener les gens à cette noce-là aussi. Matthieu 24, le bon et le mauvais serviteur ou le bon et mauvais esclave. Le bon esclave qui est celui qui se voit récompensé par le maître à son retour. Dans les Actes, chapitre 2, c'est sur ces esclaves que Dieu répandra son esprit. Quand Pierre cite... c'est un passage de l'Ancien Testament, Actes chapitre 4. « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à nos menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole en toute assurance. » Et ça n'a pas été très long, finalement, avant que les disciples revêtissent ce titre-là. Vous remarquez, il y a plusieurs lettres même du Nouveau Testament qui commencent avec ce titre-là. Paul, serviteur de Dieu, en Romains 1, Philippiens 1, Tite 1, Jacques, 2 Pierre, Jude, Apocalypse, sont tous des épîtres qui vont appeler les serviteurs de Dieu, en fait, les chrétiens, les disciples, des esclaves. T'sais. C'est donc un premier indice qui peut nous permettre de voir que il me semble qu'il y a quand même une coïncidence qui est intéressante du moins. Mais plus que ça encore, on voit que, vous rappelez-vous dans l'Évangile de Luc, au chapitre 9, plus précisément au verset 54, Jésus s'en va en Samarie pour se rendre à Jérusalem. Donc, il traverse la Samarie. La manière que ça fait, c'est que tu as la Galilée, la Samarie, la Judée. Donc, il part de Galilée, il traverse la Samarie et il s'en va à Jérusalem. Pendant qu'il est en Samarie, il essaie d'être reçu par des Samaritains qui ne veulent absolument rien savoir, qui rejettent Jésus. Et là, les apôtres, un peu vexés de ça, propose à Jésus quelque chose de très pastoral et de très gracieux. « Seigneur, fais descendre la foudre du ciel pour les brûler. » À quoi Jésus va répondre avec une réponse qui mérite de revêtir ce ton-là, c'est-à-dire « Vous savez pas ce que vous dites du tout, les gars. Calmez-vous. » C'est un peu plus ferme que ça quand même, mais ça ressemblait à ça. Et avez-vous remarqué la réaction des serviteurs du maître dans ce passage-là? Oh, Seigneur, il y a de l'ivraie dans ton champ? Parfait, on va aller l'arracher. Il y a des serviteurs du malin dans ton monde? Parfait, on va aller les enlever. Avez-vous remarqué que, à tout fin et prêt, la réaction elle est identique à celle des disciples? Ce qui fait que probablement que Jésus aussi prononçait cette parabole-là pour s'adresser aux gens qui suivait sincèrement Jésus, mais qui se rendait compte qu'il y avait une opposition qui grossissait de plus en plus face à Jésus. Mettez-vous dans la peau des disciples, du disciple commun du temps de Jésus. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués pour la plupart. Ce sont des gens qui mettent beaucoup leur confiance en des autorités comme les scribes, comme les pharisiens, comme les gens finalement de loi qui savent où ils s'en vont, qu'on a juste à les suivre. Puis s'ils disent c'est oui, c'est oui. S'ils disent c'est non, t'sais. Et là, on a Jésus qui arrive, Dieu. Et là, à force de le côtoyer, les disciples comprennent qu'il est le Messie, qu'il est Dieu, qu'il est celui qui est annoncé par l'Ancien Testament. Avez-vous remarqué la réaction typique des autorités, des pharisiens, des scribes? C'est toujours une réaction de rejet, une réaction d'opposition. Mettez-vous dans leur tête comment ça devait les confondre. C'est-à-dire, ceux qu'on a suivis toute notre vie, sur qui on se fiait pour dire « si c'est le Messie, on va donner notre OK finalement », s'oppose complètement à Jésus. Là, quand tu côtoies Jésus, et plus tu le côtoies, plus tu te rends compte qu'il est le Messie. Il est capable de parler à mon cœur. Il est capable de voir réellement ce qui ne va pas. Il est capable d'aller plus loin que juste saisir le problème général, donner des conseils qui ont du bon sens. C'est plus que ça. Il est capable de parler personnellement à ces gens-là. Puis il peut faire exactement la même chose avec toi. Exactement la même chose. Imaginez-vous dans ce temps-là, comment ces gens-là devaient être confus. Et là, Jésus adresse donc cette parabole-là et leur dit, finalement, n'essayez pas d'aborder ou d'adresser le mal sur terre comme humainement vous auriez tendance à le faire, c'est-à-dire en essayant d'arracher tout ça, de vous débarrasser du mal qui est sur la terre, finalement. Plusieurs limitations qualifient les serviteurs. Premièrement, ils sont distingués des moissonneurs. On voit que ce ne sont pas les mêmes personnes, parce que ce sont des moissonneurs, plus tard, ils vont être comparés aux anges. Les serviteurs, eux, ne sont pas identifiés. Vous remarquez qu'ils reconnaissent trop tard qu'il y a un problème important dans le champ. C'est l'ivraie est déjà de longtemps poussé avant qu'ils se rendent compte « Oh, il y a un problème, et là, on va réellement devoir adresser le maître. » Mais avez-vous vu la réaction du maître? Il y a l'ivraie dans ton champ. Qui a fait ça? Ben, c'est un ennemi. Jamais on a l'impression que le maître est déstabilisé de ça, qu'il l'apprend en même temps qu'eux autres. Même qu'il sait que c'est un ennemi qui est venu semer dans son champ de l'ivraie. Il est tout au courant de ça. Les serviteurs sont un peu déboussolés, finalement. Ils sont pas complètement aptes à distinguer le bon du mauvais. Preuve de ça, les moissonneurs, eux autres, vont très bien être capables de le faire. Ils vont être capables de vous dire, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est du blé, ça c'est de l'ivraie, ça c'est des fils du royaume, ça ce sont des fils du malin. Les autres sont très bien capables de le faire. Les serviteurs, ça ne semble pas être dans leur capacité. Pourquoi? Parce que le maître, il a bien peur qu'il fasse des gaffes en essayant d'arracher l'ivraie à travers le blé. Ils sont ignorants face à certaines réalités spirituelles. Ils n'ont aucune idée que c'est un ennemi qui est venu déposer ça, que c'est le malin qui est venu faire ça. Plus que ça encore, ils sont ignorants qu'il va y avoir une moisson et qu'au moment de la moisson, il va y avoir cette séparation qui est déjà prévue, qui est déjà planifiée. Eux autres ne sont pas au courant de ça. Leur proposition, donc, se débarrasser du mal et de ceux qui le font. Mais là, la réponse de Jésus, elle, va témoigner d'une compréhension qui est beaucoup plus profonde de la réalité des choses. Versets 29 et verset 30. Je vais juste lire une partie du verset 30. Là, pour ça. Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé, comme on vient de dire. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson et à l'époque de la moisson. Et là, je vais m'arrêter ici. Finalement, il leur dit, non, vous allez arracher un et inévitablement, soit vous ne serez pas capable de distinguer l'un de l'autre, ou soit vous allez faire des gaffes, mais vous ne serez pas capable de faire un bon travail. Vous allez abîmer le champ, finalement, beaucoup plus que vous allez aider les choses. Laissez pousser l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Comme je l'ai mentionné tantôt, une chose qui est intéressante, c'est que par sa réponse, le maître montre qu'il refuse, un, de désherber l'ivraie de son champ, ce qui n'a pas beaucoup de bon sens à l'époque, surtout à la quantité d'ivraie qu'il devait y avoir dans ce champ-là actuellement. Jamais il ne paraît surpris que l'ivraie a poussé dans son champ. En fait, il me paraît même comme quelqu'un qui est très en contrôle de la situation, qui est très au-dessus de ces choses. Jamais il a peur de perdre l'ensemble de sa récolte. Ou pour employer les mots que Jésus définit, jamais le Fils de l'homme a peur de perdre le contrôle du monde à un point que le mal va prendre trop de place puis qu'il en soit dépassé. Jamais le maître est portrayé comme quelqu'un qui panique. Toujours comme quelqu'un qui est en contrôle, qui sait où ce qui s'en va. Parce qu'une des choses qui est importante à saisir, la manière que Jésus est portrayé dans les Évangiles, dans les Épîtres, dans l'Ancien Testament avant, dans l'Apocalypse, c'est que Jésus, c'est quelqu'un qui sait où ce qui s'en va. Il sait où ce qui s'en va avec ma vie, parce que moi, je lui ai confié. Il sait où ce qui s'en va avec ta vie, si tu lui as confié. Et il veut ta vie, parce que lui, il sait où ce qui s'en va. Lui, il sait la bonne direction à prendre. Il sait qu'entre les mains du malin, ça va juste donner du mal, ça va juste donner de la poubelle. Mais lui, il sait où ce qu'il s'en va. Il sait où ce qu'il veut s'en aller avec ta vie. Et ça, c'est la meilleure des directions que tu peux prendre avec lui. Donc, jamais le maître ne semble avoir peur que l'ivraie cause un réel problème à la croissance du blé. Et de là, on peut tirer une application qui est importante. Le mal de ce monde, ainsi que les gens qui le font, n'empêcheront pas les enfants de Dieu de grandir et de suivre finalement Dieu. Il faut remarquer que le maître n'a jamais peur pour son blé. Le maître n'a jamais peur pour ses enfants. C'est vrai, le mal va grandir, oui, c'est vrai. Avez-vous remarqué que lui, il sait aussi que les enfants de Dieu vont aussi grandir de plus en plus dans le monde? Jamais il a peur pour sa récolte. Jamais il a peur pour ses enfants. Pourquoi? Parce que Dieu prend soin de chacun de ses enfants et leur donne le nécessaire pour continuer à grandir, même face à l'opposition, même face aux difficultés. Ses enfants vont continuer à grandir, à porter du fruit, jusqu'au temps de la moisson, où ils vont être accueillis dans un royaume qui est particulier, qui est vraiment bien. Ce que Jésus va faire, c'est qu'il va introduire ses disciples à une règle de patience. Laissez pousser l'un et l'autre jusqu'à mon retour. Ce qui implique donc que ceux qui font le mal vont prendre de plus en plus de place, mais aussi que ceux qui font le bien vont aussi prendre de plus en plus de place dans le monde présent. C'est ce que Jésus portrait comme plus ça va aller vers la fin, plus il va y avoir de l'opposition, mais plus aussi les gens de bien, les enfants du royaume, vont faire du bien aussi. Les deux vont grandir en importance jusqu'à son retour. Ce qui fait en fait qu'il faut s'attendre à une certaine croissance de l'hostilité jusqu'au retour de Jésus. Une hostilité qui est capable de nous aider à affronter aussi. Jésus adresse donc l'insatisfaction des disciples face au mal et à l'opposition au message de Jésus. Jésus annonce quelque chose de bien, quelque chose de positif, un message d'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez votre prochain. Et là, les gens réagissent face à lui. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, il se dit être Dieu. Il se dit être cette autorité-là face à qui il faut s'incliner pour que lui puisse diriger notre vie. Et ça, les gens n'aiment pas ça. Donc, la réponse à la croissance du mal, qu'est-ce que je dis Jésus? Ce n'est pas d'essayer d'arracher le mal, d'enlever le mal du monde dans lequel on vit. Ce que les serviteurs du mal sont encouragés à faire face au mal, c'est d'attendre, laisser pousser l'un et l'autre jusqu'à mon retour. Attendre patiemment le jour du jugement où Dieu effacera lui-même tout le mal de son monde au temps qu'il lui conviendra, sans notre aide. Et là, plusieurs d'entre vous, j'en suis sûr, vivent des situations où l'ivraie est présent dans votre vie. Ou en tant qu'enfant de Dieu, vous essayez de grandir. Mais vous vous rendez compte que vous grandissez dans un monde qui est entouré d'ivraie, qui est entouré de mal et de gens qui le font. Et là, la réponse facile, puis ce qui est tellement humain, ce qu'on essaie tellement de faire, c'est de prendre ce mal-là puis s'en débarrasser. D'essayer de trouver une solution pour remédier à la situation. Soit régler la situation, s'en débarrasser, fuir, trouver un échappatoire d'une manière ou d'une autre, mais se débarrasser du mal qui affecte notre vie, qui affecte la croissance du blé. Et ce que Dieu nous demande de faire, c'est pas d'attaquer ce mal-là de front, mais c'est d'attendre jusqu'au moment où lui va décider d'enlever l'ivraie, où ce que lui va décider de se lever les manches et dire « OK, là, c'est assez. Cet ivraie-là doit partir pour que mon blé, pour que mon enfant continue à grandir. » Jésus n'est jamais pour le fait qu'on se débarrasse nous-mêmes du mal qui domine nos vies. Mais il est toujours pour le fait qu'on se tourne vers lui pour trouver la force nécessaire pour grandir, même dans un monde dans lequel, autour de nous, il va y avoir des gens qui font le mal. Et ça va être tentant par bout de dire, pourquoi est-ce que je n'irai pas l'arracher moi-même livré? Mais il nous offre toujours son épaule, toujours, toujours, toujours son écoute, son amour pour nous permettre de s'appuyer sur lui puis de trouver la force nécessaire pour ne pas être dominé par ce mal-là et trouver la force de grandir quand même. À quoi ça ressemble régulièrement, là, je veux dire, concrètement, là, de vivre comme un enfant de Dieu à travers les enfants du malin? Moi, j'ai un exemple pour vous. Comme certains d'entre vous le savent, moi et Joanie, on va se marier en mai 2015, ce qui fait que on a commencé en fait ensemble à réserver la salle et à voir pour la décoration et tout. On est tombé sur une belle salle qui nous convenait. Et au moment où j'ai signé le contrat qui certifiait que j'allais réellement louer la salle pour le 30 mai prochain, la dame me propose la chose suivante. Si tu veux, avec le forfait de décoration que tu prends, tu ne paieras pas de taxes. Mettez-vous dans ma peau. Moi, j'ai 24 ans, la vie, je la connais pas encore à 100%. Je me dis, elle me fait peut-être un rabais, je vais creuser un peu plus juste pour être sûr. Pas payer de taxes, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est qu'en fait, je passerai pas ton montant de location dans les papiers. Et là, j'avais un dilemme. Soit j'épargne ce montant-là, je sauve pas les taxes, elle me le propose, on est juste entre moi et elle, on est seul dans la salle, personne ne va le savoir, oui, comme si Dieu, lui, il attendait dehors dans l'auto, pis disait, puis comment ça s'est passé, ça a bien été, oui, tu l'aimes la salle, oui, c'est bien, bon. Donc, ça va juste être entre moi et elle, puis il n'y aura pas de problème. Et là, j'ai eu donc ce dilemme-là de dire, est-ce que tu vas agir comme un enfant du royaume au milieu des fils du malin? Vas-tu dans cette situation-là où là, un fils du malin qui agit comme de livré, qui agit comme un fils du malin, vas-tu répondre à ça comme un fils de Dieu? Puis là, bon, je te l'annonce, Joanie, on va payer des taxes sur notre location parce que j'ai choisi, comme dans Romains 13, d'honorer le gouvernement et de le donner. Ça peut être un dilemme qui a duré des jours, mais vous comprenez la dynamique régulièrement dans notre vie. Des gens de mal vont nous proposer justement des choses malhonnêtes, des choses croches, des choses qui vont souvent paraître même plus faciles que de faire le bien, mais qu'au bout du compte, ce qu'on est appelé à faire, c'est d'agir comme des enfants du royaume. Jusqu'au jour de la moisson, où Dieu va régler toutes ces choses-là et va s'arranger pour que les livrets disparaissent. Laissez croire jusqu'à la moisson, jusqu'à l'époque de la moisson. Vous remarquez que dans cette parabole-là, ce qui est décrit comme étant l'époque de la moisson, jusqu'au jour de la moisson, ça semble être un temps qui est réellement pas proche d'arriver. Ça semble être une autre époque. D'ailleurs, les disciples sont même pas conscients que cette époque-là s'en vient, est sur le point d'arriver. Ça semble être assez lointain quand même. Et dans d'autres paraboles de Matthieu, la même réalité nous frappe. La parabole du bon et du mauvais serviteur, chapitre 24, verset 48. Le maître tarde à venir. Vous marquerez verset 48. Les 10 vierges, chapitre 25, verset 5. L'époux tardait à venir. La parabole des talents, chapitre 25, verset 19. Longtemps après son départ, le maître revient vers ses serviteurs. C'est longtemps après son départ qu'il revient. Dans chacune de ces paraboles-là, le retour du maître est toujours prolongé au-delà de nos estimations. Dans chacune de ces paraboles-là, le retour du maître prend toujours plus de temps que ce qu'on s'attend. Toujours. Comme le dit Don Carson, attendez le retour du maître comme des disciples qui sont conscients que la venue du maître peut être longtemps retardée. Dans ces paraboles, les disciples sont encouragés non seulement à être préparés pour le retour du maître, Ils sont aussi amenés à comprendre que le délai qui mène au retour du maître pourrait être significatif. Et je vous propose que, comme la parabole qu'on étudie présentement dans l'Évangile de Matthieu est seulement quelques chapitres avant les autres, composés par le même auteur, qui véhicule les mêmes idées, je vous invite à comprendre que la venue de la moisson, elle est peut-être pas pour tout de suite. Qu'évidemment, les gens qui disent « Bon, ben, ça arrive dans 2 ans, décembre 2012, la dernière fois, c'est ça? » Puis c'est arrivé quelques fois, si vous creusez, ça, c'est pas la première fois qu'il s'est repris le bonhomme, hein, ça a pris quelques fois, Arnold Camping, je pense qu'il s'appelle. Ça faisait 6 fois, hein, tu sais, qu'il prédisait. Il s'est dit « À force, tu sais, peut-être que je vais l'avoir, mais c'est... » Honnêtement, là, ça pourrait être prolongé au-delà de nos attentes, cette arrivée-là de la moisson. C'est au moins ce que Matthieu propose. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas pressé et nous devons être préparés à attendre jusqu'au moment où il lui sera convenable pour régler ce qui ne va pas dans son monde. C'est donc en son temps que ce que Jésus veut faire, c'est séparer le bon du mauvais. Séparer les enfants de Dieu des enfants du malin. Et c'est vrai que quelquefois, il peut nous sembler long d'attendre jusqu'au retour du maître. Mais rappelez-vous, je veux dire, en moyenne ici, il nous reste quoi, entre 30 et 50, 60 ans à vivre, là, en moyenne, là, si je considère tout le monde. Ça ne sera pas énormément long. Là. Pas pour nous. À l'échelle du monde, oui. Mais pas pour chacun de nous. Au pire, il me reste, j'ai 24. Au pire, il me reste. Au pire, 70. Au pire, 70 ans. C'est pas énorme, 70 ans. Je veux dire, l'histoire du monde telle qu'on le connaît, là, a 2000 ans. Moi, je n'ai à attendre 70. Ésaïe a prêché l'arrivée de Jésus-Christ, qui est arrivé 700 ans après. Moi, j'ai juste à attendre 70. Non, le deal est bon. C'est vrai, le deal est bon. Et rappelez-vous toujours qu'en fait, oui, la moisson va peut-être tarder, c'est vrai. Mais dans ma vie, la moisson, elle arrivera beaucoup plus vite que ce que je crois. Beaucoup plus vite. C'est pour ça que dans chacune de ces paraboles-là, chapitre 24, chapitre 25, à chaque fois que le serviteur est décrit, est abordé, Jésus, essentiellement, ce qu'il nous encourage à faire, c'est d'intégrer à notre vie des habitudes de vie, des comportements qui vont plaire à Dieu. Finalement, il nous appelle à configurer notre vie autour de quelque chose de réellement important, quelque chose qui va durer, pour que, quand il va revenir, au moment où on ne le sait pas, au moment où il va peut-être être long, mais qu'on ne sait pas ultimement, on soit trouvé comme des serviteurs fidèles. Pourquoi? Parce qu'on va avoir configuré notre vie autour de choses réellement importantes. C'est donc ce Jésus-là qui va rassembler les fils de Satan. C'est dans la parabole, les mots qui sont décrits pour arracher, c'est en fait rassembler. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va les rassembler ensemble dans un premier temps, les fils de Satan, ceux qui n'ont pas cru en Dieu pour faire de lui le centre de sa vie. Et là, je vais donc lire le verset 30 au complet. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Dans un premier temps, c'est donc ce Jésus-là qui va prendre tous les enfants du malin pour les envoyer dans ce qu'il appelle la fournaise de feu, pour ultimement les détruire. Mais c'est aussi celui-là qui va réserver aux justes, à ceux qui ont fait de lui le centre de sa vie et qui ont vécu en conséquence. C'est à eux qu'il réserve le royaume de leur Père. Vous remarquez, le blé est décrit aussi comme, puis on le voit plus loin, comme les justes, qui vont ultimement hériter d'un monde. Et là, étrangement, le monde dans lequel c'est décrit, c'est le monde dans lequel on vit. Et là, ce que Jésus fait, c'est qu'il interchange les termes. Il décrit le champ, mais en fait, c'est ce champ-là qui va être le royaume de son Père. T'sais. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Et donc, c'est à ces gens-là qu'il va réserver le royaume de Dieu, un endroit de paix, un endroit où les justes vont resplendir comme le soleil. Le royaume de Dieu, partout dans les évangiles, partout dans la Bible, il est toujours décrit comme un endroit de repos, un endroit où il n'y aura plus de conflits, où il n'y aura plus de déchirures, où il n'y aura plus de maladies. un endroit où les uns avec les autres, on va être en harmonie. Les uns avec la création aussi, et tous avec Dieu. C'est un endroit où tout va retomber à sa place, avec Dieu au centre. Et c'est ce royaume-là qu'il offre aux justes. C'est ce royaume-là que Jésus te tend la main pour prendre part à. C'est un endroit auquel il veut que tu prennes part. Et il ne décrit pas cette parabole-là pour rien. Il décrit cette parabole-là utilement pour nous présenter un royaume dans lequel il veut qu'on prenne part. Un royaume que lui nous décrit parce que c'est lui qui peut nous y donner accès. Si on met notre confiance au fait qu'il a payé toutes nos fautes à notre place. Si on fait de lui le centre de notre vie, qu'on agit en conséquence finalement avec le fait de faire de lui le centre de notre vie. Jésus nous le garantit. On va atteindre ce royaume-là, où les justes vont resplendir comme le soleil. Maintenant, là, on a entendu parler du royaume des cieux. Et peut-être que, en décrivant les fils du malin, en décrivant les fils de Dieu, tu t'es rendu compte que tu n'étais pas un enfant de Dieu. Peut-être qu'à force de décrire les choses, tu as vu les deux semences et tu te dis, pour moi, c'est pas du blé qui pousserait si on avait planté ma semence. Et si c'est ton cas, comme Jésus décrit la parabole pour nous présenter un royaume auquel il peut nous donner accès, ce que je t'encourage à te faire, c'est de parler à Jésus puis lui demander de faire ce qu'il fait de mieux. De faire de toi un enfant de Dieu. De transformer l'ivraie en blé. De transformer l'injuste en juste. Parce que c'est pas par un bon comportement qu'on peut devenir du blé. Qu'on peut devenir un juste, mais c'est uniquement par sa puissance, si on se tourne vers lui et si on lui demande, « Fais de moi un juste, Seigneur. Transforme-moi. Adopte-moi comme ton enfant. Fais de moi ton enfant. » C'est ce que je vous encourage à faire. Jésus seul peut transformer l'ivraie en blé et les enfants du malin en enfants de Dieu. Fait qu'on va terminer en priant. Seigneur, merci pour la Bible, merci pour ta parole, pour le fait que tu te rendes accessible à nous, que tu nous offres de prendre part à un royaume qui est beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Seigneur, merci d'être celui par qui on peut avoir accès à ton royaume en se fiant que tu as réellement, à la croix, subi toutes les conséquences du mal qu'on a fait. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de se fier que devant le Père, le sacrifice que tu as pris à notre place, il est juste. Si on prend cet engagement-là, de te suivre, de vivre avec toi au centre de chacune des facettes de notre vie, tu nous promets le royaume des cieux. Seigneur, aide-nous à garder les yeux sur le moment où chacun de nous, on va avoir à faire face à notre moisson. Aide-nous à garder les yeux sur ce moment, comme un moment qui va venir bientôt. Aide-nous à voir les difficultés de notre vie comme des difficultés qui ne resteront pas éternellement, mais qu'ultimement, toi, tu vas arracher pour nous faire resplendir devant tes yeux, comme tes enfants que tu vas avoir adoptés. Amen.